Grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Nous avons vu qu'en écrivant et en introduisant le livre de l'Apocalypse au canon des Écritures, l'apôtre Jean a complété les 7 divisions de la Bible. Elle était ainsi devenue complète puisque nous y trouvons maintenant, pour l'Ancien Testament, la loi, les prophètes, les psaumes, et pour le Nouveau Testament, les évangiles, les actes, les épîtres, l'Apocalypse. 7 est un chiffre divin qui symbolise l'achèvement des choses pour leur accomplissement. Il y a par exemple la recréation de la surface de la terre en 7 jours, le sabbat de la terre la 7e année et le sabbat hebdomadaire le 7e jour. Naaman, le chef de l'armée de Syrie, dut se laver 7 fois dans le Jourdain pour guérir de sa lèpre. Nous devons pardonner 7 fois, 77 fois. Il fallut faire le tour de la ville de Jéricho pendant 7 jours. Dieu détruisit 7 nations en Canaan. L'apôtre Jean reçut un message pour les 7 époques de l'Église de Dieu. Le livre de l'Apocalypse nous parle de 7 anges, 7 trompettes, 7 tonnerres, 7 fléaux, 7 coupes d'or, etc. L'apôtre Paul présente la préservation de l'Ancien Testament par les Juifs comme un avantage pour eux. Quel est l'avantage des Juifs ? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi ? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu ? Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Que tout homme soit reconnu pour menteur, écrit Paul. C'est aussi parce que Jésus devait être trouvé juste dans son enseignement que l'Ancien Testament sur lequel il se basait a été préservé. Les Juifs n'ont jamais contredit son enseignement. Après la mort de Jean, qui donc allait être le gardien du Nouveau Testament? Paul écrit « Il n'y a aucune différence en effet entre le Juif et le Grec. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Les Grecs reçurent aussi la parole de Dieu. Dieu leur envoya un apôtre, Paul, qui en général s'adressait aux gentils. Paul se consacra presque entièrement aux Grecs. Il ne s'adressa aux autres nationalités, à l'exception des Romains, que si elles étaient présentes dans son auditoire. Il ne s'est pas adressé aux Perses, aux Allemands, aux Éthiopiens. Poursuivons notre lecture. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, « J'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. » Autrement dit, les Juifs n'ont pas accepté le Messie. Ils ne le reconnurent pas. Ils le refusèrent et furent en partie aveuglés spirituellement. Les Grecs étaient une nation sans intelligence, divinement parlant, car ils étaient remplis de vanité selon le monde. Et Paul ajoute, « Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Remarquez que Paul considérait que cette prophétie s'accomplissait à l'époque au cours de laquelle il vivait. Lorsque les Juifs rejetèrent le Christ et son message, Dieu suscita l'apôtre Paul pour qu'il se rende vers le monde grec. Les Grecs reçurent le Nouveau Testament, les oracles du Christ, et ils les préservèrent. Jésus avait fait une promesse et il l'a tenue. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. De tous les peuples, seuls les Grecs ont copié génération après génération le Nouveau Testament dans la langue dans laquelle Dieu l'avait inspiré. Personne d'autre ne le fit. Les Samaritains l'ont corrompu. Les Égyptiens et les Latins le traduisirent et inévitablement le corrompirent. Seuls les Grecs le copièrent soigneusement dans sa langue originale. La parole de Dieu demeure vivante. Les siècles n'ont altéré en rien son enseignement, qui garde la même valeur pour l'homme du XXe siècle qu'il n'en avait pour l'ancien Israël et pour les apôtres. Lisez-vous la Bible. Si vous la lisez, pourquoi le faites-vous? Qu'espérez-vous y trouver? Est-ce la vérité? Lisez-vous la parole de Dieu sans préjugés? Trop peu de gens ont l'honnêteté intellectuelle de questionner sérieusement la validité de leurs croyances et de les vérifier avec la Bible. La majorité des gens acceptent ce qu'on leur enseigne sans se poser la moindre question. Pensez-vous que Dieu attend cela de vous? Si Dieu a pris tant de soin pour protéger et préserver sa parole, n'est-ce pas parce qu'elle est précieuse à celui qui veut vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? Pourquoi ai-je voulu aborder ce sujet aujourd'hui? Parce que des nuages sombres s'accumulent lentement mais sûrement à l'horizon. Ces jours sombres sont prophétisés dans la Bible, dans ces livres qui devraient être notre manuel de vie. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ce passage se rapporte bien à une époque où les gens ne connaissent plus leur Bible, comme le confirme le prophète Ézéchiel. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. La ruine vient. Ils cherchent le salut, et point de salut. Il arrive malheur sur malheur, un bruit succède à un bruit. Ils demandent des visions aux prophètes. Les sacrificateurs, les prêtres ou les pasteurs, ne connaissent plus la loi. Les anciens n'ont plus de conseils. L'état spirituel des chrétiens des temps modernes est également décrit dans la parabole des 10 vierges. Alors le royaume des cieux, le royaume qui est en préparation dans les cieux et que le Christ établira sur terre à son retour, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux, à la rencontre du Seigneur. 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, c'est-à-dire au milieu des ténèbres spirituelles, on cria « Voici l'époux aller à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous, et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Cette parabole décrit bien l'état du monde chrétien au temps de la fin, lors de l'époque qui doit précéder le retour du Christ. Le monde a glissé dans les ténèbres spirituelles. Chacune de ces vierges possède une lampe, et cette lampe est la parole de Dieu. David a écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Remarquez que toutes les vierges, qu'elles soient sages ou folles, toutes se sont assoupies et endormies. À cause de leur assoupissement, elles ne se sont pas rendues compte de leur état spirituel. Quand on dort, on ne voit rien, on n'apprend rien, on ne se rend compte de rien. Relisez cette parabole, comprenez-la bien. Ensuite, ne pensez pas qu'elle s'applique aux chrétiens de votre entourage. Mais prenez un miroir et regardez-vous, mais regardez-vous sans indulgence tel que vous êtes. L'érosion, l'usure, la dégradation spirituelle a-t-elle déjà commencé son œuvre chez vous? Rien ne sert de chercher la paille chez les autres, alors que nous avons une poutre, un arbre ou même une forêt à découvrir en nous. Certaines personnes affirment que l'amour croit tout. Elles ne prennent pas la peine de questionner sérieusement la validité de leurs croyances. Voyons donc si l'amour doit tout croire. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Dans le passage que je viens de citer, le mot charité peut être traduit par amour. Nous avons vu, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. En effet, si l'amour est en vous, mais le véritable amour qui vient de Dieu, vous êtes patient et vous faites preuve de bonté envers les autres. Vous ne vous énervez pas, vous gardez votre calme. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Si la charité, l'amour véritable, est ancré en vous, alors vous n'êtes pas envieux ou jaloux des autres. Vous ne vous vantez pas pour vous mettre en valeur. L'orgueil ne vous pousse pas à essayer d'épater les autres. Vous ne faites rien de malhonnête. Vous ne recherchez pas votre intérêt, mais plutôt celui des autres. La charité ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Si l'amour est en vous, vous êtes tolérant. Vous ne vous irritez point. Vous ne vous emportez pas. Vous ne vous laissez pas aveugler par la colère. Vous ne voyez pas le mal où il n'est pas. Vous ne le soupçonnez même pas. En fait, vous ne voyez pas la paille qui se trouve de temps en temps dans l'œil des autres. Vous commencez par vous examiner et vous voir tel que vous êtes, et vous découvrez la poutre qui se cache dans votre œil. La charité ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Si l'amour est en vous, le véritable amour de Dieu, alors vous ne prenez pas plaisir en tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, mais vous vous réjouissez de la vérité. Comment peut-on se réjouir de la vérité? En la recherchant, en la trouvant, en l'étudiant, en fouillant les Écritures, en agissant exactement comme les Juifs de Bérée qui vérifièrent les enseignements de Paul dans les Écritures. La charité excuse tout, elle croit tout, elle espère tout. Si l'amour est en vous, vous excusez tout, autrement dit, vous pardonnez tout, vous croyez tout, vous avez confiance dans les excuses qui vous sont présentées pour le mal qui vous a été fait. Ensuite, vous oubliez ce mal, vous tournez la page. La charité espère tout, elle supporte tout. Si l'amour est en vous, vous avez de l'espérance dans toutes les promesses divines, et grâce à cette espérance, vous supportez tout le mal qui vous est infligé, sans oublier les épreuves auxquelles vous faites face avec courage. Et nous en arrivons à cette petite phrase, « La charité ne périt jamais ». Il s'agit de la septième partie de ce passage qui, en fait, résume le reste. Le véritable chrétien doit être rempli d'amour pour Dieu et pour son prochain. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Les commandements sont à la base de cette grande loi d'amour qui est détaillée dans toute la Bible. Le véritable chrétien se soumet à la loi pour ne plus vivre dans le péché. Si son amour demeure vivant, ce chrétien ne périt pas, il ne périra jamais, car il sera sauvé. Comprenez-vous maintenant ce que veut dire l'amour croit tout? Tout croire sans vérification ne peut vous faire avancer dans la vérité, pas plus que dans le chemin étroit. Vous ne pouvez pas être paresseux, spirituellement parlant, vous devez découvrir la vérité et elle vous enrichira, elle vous guidera si vous voulez faire la volonté de Dieu.